J'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers.
La radio des aînés.
À Florois, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens très bien, ça n'a pas d'importance, aujourd'hui tout va bien.
Bonjour chères auditrices de l'auditeur de Radio Bartas. Nous nous retrouvons ce mois d'octobre pour parler de l'école. Octobre, c'est le mois de la rentrée des classes de l'époque où nous étions écoliers. Que de souvenirs, des odeurs de craie, de plumes, de les jeux pendant la récréation, et aussi quelques chansons. Et pour commencer cette émission, nous allons écouter Marthe qui nous lit un poème de Jacques Prévert.
Page d'écriture. 2 et 2 font 4. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez. Dit le maître. 2 et 2, 4, et 4, 8. 8 et 8 font 16, et voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Et l'enfant joue. L'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16. Et surtout, pas 32. De toute façon, ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent sa musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 4 et 4, 2 et 2. À leur tour, fiche le camp. Un et un ne font ni une ni deux. Un et un s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante, et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, et les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau.
Jacques Prévert.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile. Partons pour le Japon.
Trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée
et le printemps nous a salués.
C'était lui le garde-barrière. A bien remercié. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer.
Alors on est revenu à pied tous
Nous venons d'écouter en sortant de l'école notre poème de Jacques Pivet, chanté par les frères Jacques.
À l'école, mais j'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien ça. C'est tout. Surtout le français et les maths, j'aimais ça. Le reste, après, c'était plus pareil. Mais en fait, ça s'est passé comme ça. Parce qu'on était bien entourés et on était bien expliqués, ce qui fait que c'était pas pénible.
Mon école, c'était une école de village à Racoula, un petit village à côté de Vébron. C'était une école unique, c'était mixte, les petits et les grands. J'ai de très bons souvenirs de l'école et de mes maîtres. Quoi. La première institutrice que j'ai eue, Madame Hugon, elle m'avait pris avant l'âge scolaire pour apprendre à écrire. Puis elle est partie à la retraite et après, par la suite, j'en ai eu d'autres, peut-être deux ou trois. J'aimais bien les maths, oui, c'est l'algèbre, le calcul mental. L'épreuve, on faisait la preuve par neuf à l'époque. Les histoires de France, les dates de 1515 ou 1525 ou 1685, enfin bon, c'est des dates qu'on se rappelle. Puis la géographie, il y avait les cartes, les grandes cartes au tableau. On pouvait mieux apprendre les leçons, quoi, de nous expliquer sur la carte. Et quoi encore, la cour de récréation, naturellement. On faisait des jeux, on jouait au chat perché, au ballon peut-être, oui, à la marelle. À la marelle, oui. À la corde, on sautait à la corde. Puis on faisait des petits travaux. On rangeait le bois aussi dans un coin pour garnir le poêle l'hiver, quoi. On s'occupait, quoi. Le matin, il fallait préparer, allumer le feu, quoi. C'était un poêle Godin, un poêle haut, il fallait allumer le feu avant d'en y aller. Quand on était de corvée, on y allait peut-être demi-heure avant la rentrée.
C'était les élèves qui allaient allumer le feu ?
Les élèves allumaient le feu le matin.
Oui.
On avait des punitions. Les punitions, c'était dans le coin, comme disait Madame Damien, on allait dans le coin de la classe ou devant le tableau, les mains derrière le dos, je ne sais pas, enfin bon. Ou alors, copier des lignes. On avait peut-être... Si on avait passé notre leçon, où on faisait 50 lignes, 100 lignes, je ne sais pas. On faisait ça le soir, après les cours, ou à la maison. Que de souvenirs, ils sont loin. Hein. Ils sont loin. Enfin, tout ça, c'est des bons souvenirs.
Oh, la première fois, ça a été dur. Mais enfin, il ne faisait pas grand-chose à 4 ans. On avait un petit cartable. La table de matière, il fallait apprendre, commencer à apprendre. On avait la morale, puis on avait le calcul, puis il y avait des jours où il y avait le problème. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je n'aimais pas le problème. Puis l'après-dîner, il y avait eu des scènes. Des scènes, ça, si, ça allait. Pour moi, j'aimais les dessins. Et puis après, on arrivait à la récréation. Comme tous, on aimait aller jouer. Il fallait parler français à l'école. Sinon, on était punis. C'était sévère pour ça.
Eh bien, quand on a tourné, on y allait à 4 ans. Et c'était l'institutrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, là. Elle nous apprenait à lire, à compter. Alors, on avait un petit truc là avec des perles, des dizaines de perles, où on faisait des paquets d'allumettes de 10, là, on apprenait à compter, quoi. À s'amuser à la récréation, on apprenait des choses comme ça, oui. Et puis après, à ce temps, c'est à l'école primaire. Hein. Alors oui, là, je l'ai dit tout à l'heure, l'instituteur était sérieux. Il nous faisait travailler comme il faut. Hein. Je ne sais pas si c'était le jeudi, je ne me rappelle pas peut-être. Une fois par semaine, on faisait les promenades sur la montagne, oui. Mais je crois que c'était le jeudi, il n'y avait pas l'école, mais je ne sais pas comment ça marchait, ça, s'il le faisait, s'il était payé ou quoi. Mais il me semble que c'était le jeudi. Mais parce que c'était les vacances, et je crois qu'on ne manquait pas l'école, c'était le jeudi. Mais ben, là, c'était bien. Moi, je suis bien content d'être à l'école, oui. Ça, c'est sûr.
J'aimais bien l'école, oui. Oui. Et on voulait que l'institutrice voulait me faire passer un concours de bourse. J'ai gravé pour avoir des bourses. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle plus. Certificat, j'étais reçue avec mention bien. Alors, c'était encourageant. Et je sais que mes parents disaient, entre autres, mon frère, qui était un peu plus âgé que moi, n'avait pas eu son certificat d'études. On le passait le même jour. Alors ma maman disait, oh, j'aurais préféré que ce soit toi qui doive redoubler.
Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papille, au lycée papillon. Élève Podaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle, eh bien dites-moi ce qui est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Les ruminants sont des coléoptères, tels que la langouste et le rat à dégoût, le cheval de bois, le poule à belle-mère, qui bat sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie, eh bien citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que coule la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrelat.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Nous venons d'écouter le lycée Papillon chanté par Georges Huss, une chanson de 1936.
Des souvenirs de l'école, je n'ai pas de bons souvenirs parce que je n'étais pas un bon élève. J'étais à l'école, j'avais 14 ans et vous savez, ben, je n'ai pas beaucoup été à l'école. J'y allais qu'à Toussaint et à Pâques. Entre Toussaint et Pâques. Au début, là, au mois d'octobre, il y avait encore les vendanges à faire parce que nous avions une vigne, nous, là-bas, dans la vallée. Et il fallait vendanger, il fallait tout un tas de choses. On commençait l'école qu'à la Toussaint. Et souvent, à Pâques, on me disait, mais il faut venir garder les troupeaux. À 10 ans, je gardais les troupeaux, où je faisais travailler la ferme. Je n'ai pas été gâté. Je n'en parlerai pas bien de l'école. Moi, l'école m'a été complètement dégoûté. Alors, je n'étais pas les plus intelligents, comme on dit. Alors, on me mettait dans un coin, et on me donnait des devoirs. Mais on ne s'occupait pas de moi, on s'occupait de ceux qui étaient intelligents et pas des autres. Je dis que les instituteurs n'étaient pas justes pour ce moment-là. Ils auraient dû s'occuper de ceux qui... On était en retard. Il y en avait un autre avec, comme moi qui était un enfant naturel, qui n'avait pas ses parents aussi. Et il était comme moi et, vous savez, son oncle l'avait élevé un peu comme moi. Et finalement, on était souvent punis, tous les deux. Je dis que ce n'est pas juste, ça. Et à 14 ans, le jour de mes 14 ans, j'ai quitté l'école. Il m'a fait quitter l'école pour travailler. Et pas un jour de plus. Alors je sais lire, que je sais très bien lire, mais écrire, vous savez, je fais des fautes d'orthographe. Mais enfin, je me suis débrouillé, j'ai gagné ma vie, j'ai élevé ma famille, j'ai rien à me reprocher. Mais mes sœurs et frères ont appris plus que moi, parce qu'ils étaient plus jeunes après, et ils ont eu plus le temps d'aller à l'école. Dès que moi, j'ai été un peu méprisé de ce côté-là. Je le regrette un peu, parce que j'aurais pu peut-être... Je suis au niveau du certificat d'études, mais je ne l'ai pas passé, d'ailleurs. Et vous savez, je sais tout juste lire et écrire. Ça m'a suffi, ça ne m'a pas empêché de gagner ma vie quand même. Je me suis débrouillé tant que j'ai pu. J'ai fait selon mes idées, mais tout. Et puis, pas plus. Je n'ai pas de bons souvenirs de l'école, moi. L'école, c'était mon cauchemar. Surtout les instituteurs. Les instituteurs n'étaient pas bien. Il y en avait un là qui... Celui-là, je l'avais gardé 4 ans. Celui-là m'a appris peut-être un peu. Mais le pauvre, il a été après massacré par les Allemands parce qu'il s'occupait du maquis. Et celui-là encore. Mais le dernier, là, il s'appelait Raymond Garling. Et alors, il était de Mostujol. Il était affreux. Quelqu'un était en retard et il le foutait dans un coin là-bas. Va faire tes devoirs là-bas. Il ne s'occupait pas du tout. Le matin, je suis parti de chez moi. Il pleut un peu. J'avais un manteau. Bien habillé. C'était l'hiver. Mais ce n'était pas imperméable, vous comprenez? Alors, il a fait un orage, je me suis trempé jusqu'à complètement. Alors, je suis arrivé chez une tante qui me gardait l'hiver, parce que l'hiver, je ne faisais pas le chemin, je couchais là-haut. Et alors, elle m'a dit, mais tu ne peux pas aller à l'école. Comment ça, tu es tout mouillé, tu vois bien. Alors, elle n'avait pas des habits pour me donner. Elle me les a quittés, elle me les a fait sécher devant le feu, tant que j'ai pu. Et puis, vers 9h, 9h30 après, elle m'a dit, maintenant que tu sais, va t'en aller à l'école. Je suis allé à l'école. Et l'instituteur m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver à un retard comme ça? J'ai dit, je me suis mouillé, mais je me suis fait... Mais tu seras puni pendant 15 jours de récréation, à cause que je m'étais mouillé, vous voyez. Je dis que les instituteurs n'étaient pas réguliers à ce moment-là. Ils n'étaient pas gentils pour ceux qui arrivaient au malheur, vous voyez. Aujourd'hui, je portais plainte comme moi. Que ce serait arrivé à ma fille, je portais plainte, moi, cette fois-ci, pour ça. Alors, je dis que c'est pas quelque chose de bien. On ne punit pas les enfants quand c'est pas sa raison. Si je m'étais amusé en cours de route, ça ne serait pas été pareil. Mais pour me faire sécher, si j'étais allé à l'école tout mouillé, le soir, j'aurais été congelé. Et voilà.
Les parents étaient sévères, et puis l'instituteur, il était aussi très sévère. Alors, on ne pouvait pas bouger, si on bougeait quand même. Mais il ne fallait quand même pas s'évader, hein. Ouh là là, on ne pouvait pas se permettre la moindre fantaisie. Ouais. Enfin, c'est passé, on s'en est sorti. Moi, ça m'a bien servi parce que j'avais bien travaillé. Et ça m'a aidé.
C'était pendant la guerre. Je n'étais pas la seule à être comme ça. C'est pour ça qu'on était montés en Salgas. Alors, j'étais allée à un pensionnat la première année, ou 2 ans. Je suis allée à une école libre de genre quand on tapait. Nous, on ne tapait pas. Sur la table, j'étais démarré. J'arrive à Salgas, pire. Elle était sévère, hein. Dans nos coulons. Elle le punissait. Sa fille, elle avait sa propre fille. Quand elle était punie, je ne sais pas si je me rappelle, elle lui mettait sa culotte derrière son dos et là, devant tout le monde, elle la mettait au tableau. Oui, oui, ça, je me rappelle. Ça m'avait choqué. Elle était vraiment bizarre. C'est pour ça que j'avais mal réussi.
Moi, j'ai appris davantage après l'école qu'à l'école. Ça, j'aimais d'être avec quelqu'un instruit pour apprendre. Ça, c'est toujours aimé.
ça. À l'école, l'institutrice s'occupait des plus doués, de ce qui était le plus doué, et puis les autres, on était un peu de côté. Alors, c'était pas bien pour elle, hein. Je trouvais que c'était pas bien.
Mais l'école, j'aimais bien l'école, mais dans l'ambiance dans laquelle j'étais, c'était la misère. Alors je ne peux pas trop en parler. C'était mixte au début. Après, la classe du certificat d'études, ça a été qu'un moment, parce que j'en ai tellement fait. Hein. Et alors, il y avait le maître, qui lui était un tyran, et c'est ce qui m'a obligé un peu à... Quand j'étais assez âgé, puisque on avait une voiture, je suis repassé dans ce lieu-là, Saint-Méard de Curson, en Dordogne, et j'ai demandé à des camarades qui étaient adultes aussi, et j'aurais demandé où résidait le maître Souprenat, parce que j'avais l'intention de lui rappeler sa tyrannie vis-à-vis de moi et que je leur ai balancé mon poing sur la gueule. Et il m'a dit, oh, ne fais pas ça, ça va t'attirer des ennuis. Et il n'avait qu'un garçon, un petit garçon, un peu plus jeune que moi. Et il est allé dans la secte que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. À un moment donné, on a parlé beaucoup, c'était les Moons. Et alors, il a été responsable dans cette secte. Et alors, il me dit, lui qui voulait en faire de son fils un ingénieur, il a fait un raté qui a été répandre une doctrine que personne ne supportait.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit, c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou, et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction, oh quel programme. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublie jamais, monsieur le maître d'école. Je n'oublierai jamais le jour, c'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre.
je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit, bonjour toi, ça me fait drôle. Je suis redevenu le petit gars, j'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.
Nous venons d'écouter le maître d'école, une chanson de Bourville.
Bon, l'école, on m'a appris à lire. Et puis après, adolescent, plus grand, oui, on se rappelle des leçons de morale qu'il y avait le matin et des leçons d'instruction civique aussi. Et la morale, c'était, on apprenait la politesse. Tu diras bonjour quand tu seras dans la rue, tu quitteras ton béret devant un monsieur, laisser sa place... pour une personne plus âgée, c'est des exemples que je me rappelle et qu'on a pratiqué quand même dans la vie.
Question de morale, le matin, et quand on est arrivé, la première chose qu'il fait, il nous disait d'être poli, de dire bonjour, de frapper à la porte avant de rentrer, et quand on nous donnait quelque chose, de dire toujours merci ou au revoir ou comme ça. Et surtout de respecter les personnes âgées, on nous disait. Si on voyait qu'il était dans la peine de quelque chose, si on pouvait lui donner un coup de main, on nous disait de le lui donner. La morale, c'était le bien-être pour tout le monde.
Eh bien, quand on allait à l'école, on y allait en sabot. On y allait en sabot, on avait un cartable sur le dos. Là. Et à la rentrée, l'instituteur nous faisait mettre en rang pour regarder si ses oreilles étaient propres. Et après, il fallait faire comme il faut parce qu'il était sévère. Mais enfin, c'était un bon instituteur quand même, quoi. Voilà. Et il nous apprenait bien. Il nous apprenait bien les leçons. La morale civique, il nous l'apprenait. Que maintenant, ça ne se fait pas, ça.
La morale.
Ça consistait en quoi ?
Il fallait qu'on se tienne.
La politesse,
oui. La politesse, la tenue. La présentation aussi, il fallait quand même se présenter comme il faut. Voilà. Et puis le reste, je ne m'en souviens plus.
C'est vieux, hein.
Mon Dieu.
Tous les matins, avant de commencer les cours, c'était toujours « Bien mal à qui ne profite jamais ». Puis tout compte fait, hein, ceux qui l'ont chanté comme moi, c'est surtout mes parents qui étaient... quand même assez calotin et qui m'ont inculqué les bons principes. Un instituteur, dont je me souviens vaguement, c'est un grand bonhomme qui était directeur et instituteur en même temps d'une certaine classe, je ne sais plus laquelle. Et puis je me souviens qu'il distribuait à tous les élèves de sa classe, il avait la classe des petits. Et alors, il arrive un petit garçon, qui s'appelait Tout Blanc. Et ce Tout Blanc, il était effectivement blanc et pâle, hein, peut-être parce qu'il était chez lui, mais il ne bouffait pas trop, je suppose. Toujours est-il, c'est qu'il n'avait aucune éducation. Alors, le maître et directeur. Et alors, je me souviens qu'il passait parmi les élèves et il leur présentait un papier, je ne sais pas ce que c'était, je ne me souviens plus. Toujours est-il, c'est qu'il attendait de ce petit garçon qui s'appelait Tout Blanc de dire merci. Mais ce pauvre gosse ne savait pas ce que c'était que dire merci. Alors, il lui disait, merci mon chien. Et puis le gosse était là, merci mon chien. Alors, il lui balançait une paire de claques.
Non, c'est pas très
alors, et ça recommençait souvent. Alors il remettait encore son truc, ce qu'il voulait donner, un papier, je ne me souviens plus quoi. Et puis il croyait qu'il avait compris, puis il disait « Merci mon chien !» Parce que le gosse ne réalisait pas qu'il fallait dire merci. Et puis il répétait « Merci mon chien !» Et puis je vois encore, et encore une paire de claques. Et ça a duré peut-être, je ne sais pas, un quart d'heure comme ça. Puis il a vu que rien n'y faisait, il ne comprenait. Alors qu'il aurait été très gentil de dire « c'est un pauvre gosse, il faut que je lui dise ». Eh bien, on dit merci quand on donne quelque chose. Tandis que ce gosse, il n'avait rien pigé. Et il l'a abandonné comme ça, il passait à autre chose. Mais alors, chaque fois qu'il disait « Merci mon chien, merci mon chien !» Alors, évidemment, ça, tout le monde riait. Non, parce que moi, je ne riais pas. J'étais peut-être, je ne sais pas moi, influencé par l'éducation qu'on m'avait donnée d'être... toujours, comment on dit, ouvert à ceux qui étaient pauvres, qui étaient maltraités, qui étaient malheureux. Et ça, c'était inculqué par mes parents. Mais ni maîtresse, ni directeur, ni maître...
Deux écoles chez nous se tiraient la bourre. L'une disait sois érudit, l'autre chuchotait remplis ton caddie. Comment choisir entre les deux approches? L'une disait remplis ta tête, l'autre tes poches. Entre les deux difficultés, aucune chez moi n'a fait l'unanimité.
À n'appartenir à personne tu meurs, à trop entendre sors de ma demeure. À pas répondre ni merde ni s'il te plaît, tout a manqué. Tout s'est dépeuplé.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
La vie, comment on la savoure? Deux écoles chez nous se tiraient la bourre, sans jamais s'octroyer demi-temps, elles se tiraient dessus à bout portant.
Comment faire le compromis, dire à l'une et à l'autre c'est promis, avancer sans qu'elle se fâche à l'oreille une fleur, à la taille une hache.
Oui, fallait être malin pour apporter de l'eau de moulin. Avec leurs ailes qui avaient tout démoli, en voyant la rivière changer de lit.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Comment échapper aux deux maîtres? L'un disait du chiffre, l'autre des lettres. Comment déchiffrer les hiéroglyphes?
Quand l'un dit pardonne et l'autre venge-toi, et tout ça sous le même toit. À pas choisir entre les deux édifices, t'es pour l'un et pour l'autre commis d'office.
À vouloir être pote avec les deux, l'un et l'autre te traitent de merdeux. Et tu meurs bouche ouverte dans les flaques, avec un requiem dormez-vous frère Jacques.
Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous? Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort.
Balotti, tu finis comme un de ces spécimens qui dit non merci à la race humaine.
Et pour pas être victime d'une horde de feu,
un beau jour c'est toi le premier qui fait feu. Frère Jacques, dormez-vous, qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors, à la vie, à la mort. Frère Jacques, dormez-vous, qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors, à la vie, à la mort. 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 À la vie, à la mort.
Alors, c'est Zebda qui chantait les deux écoles. C'est maintenant la fin de cette émission. Nous vous retrouverons le mois prochain et nous parlerons des transports. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site Radio Bartas. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Au revoir.
J'ai la mémoire qui flanche.
Je me souviens plus très bien.
Ça n'a pas d'importance.
Aujourd'hui tout va bien.
Des choses à dire, à partager.
On en a des milliers.
Entre la gare et les pompiers.
La radio des aînés.
À Florac, sur Radio Bartas, les aînés de la maison de retraite prennent la parole.
J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens très bien, ça n'a pas d'importance, aujourd'hui tout va bien.